Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17 et verset 20. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au dedans, sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Encore une fois, frères et sœurs, bonjour à tous. Je vous souhaite un bon sabbat, que ce soit le début ou la fin pour vous. Mais quoi qu'il en soit, nous approchons en cette heure du Seigneur à travers sa parole pour chercher à venir à la conclusion de cette série de messages sur le don de prophétie, le don prophétique. Et ce message ici, c'est donc, comme vous l'avez certainement déjà vu, la deuxième partie du message que j'ai intitulé « Le don prophétique dans la vie d'Ellen G. White ». Donc la dernière fois, nous avions parcouru une sorte d'introduction à cette méditation. Nous avions réfléchi aux dernières manifestations du don prophétique dans l'histoire, tout particulièrement à travers la période élargie, mais sur laquelle nous avons relativement peu d'éléments historiques, celle de Sardes et ensuite de Philadelphie. Et ensuite, nous avons procédé à un examen et aux comparaisons des caractéristiques d'un vrai prophète. Nous avions passé en revue la condition physique de la personne, c'est-à-dire du vrai prophète, durant ses visions. Hein, je vous le rappelle, je fais un récapitulatif, il est ravi en esprit. Et nous avions ces cinq points d'Aniel, où le prophète perd sa force, il voit un ange, l'ange pose sa main sur lui, il est surnaturellement fortifié et il n'a pas de souffle dans son corps. Nous avons étudié ces aspects dans l'exemple qui nous est donné en Daniel, dans Daniel chapitre 10, et nous avons retrouvé par la suite, juste avant et par la suite, dans les récits de la condition physique dans laquelle se trouvait Ellen White durant ses visions. Au début, elle s'appelait Ellen Harmon et ensuite Ellen White. Et nous avons trouvé une parfaite corrélation entre l'exemple biblique et la condition physique de Sir White dans ses visions. Ensuite, nous avions vu que, au point C, le vrai prophète se trouve avec les yeux ouverts pendant ses visions, quoiqu'il voit autre chose que les scènes qui l'environnent. Et le point D, nous avions vu que ce qui caractérise un vrai prophète, c'est non pas seulement qu'il reçoit les visions, mais qu'il reçoit la mémoire des visions que le Seigneur lui a données. Nous avions trouvé cela dans le fameux passage de 1 Chroniques, chapitre 28, versets 10 à 12 et verset 19, avec l'exemple de David lorsqu'il parlait à Salomon et qu'il expliquait comment il avait reçu non seulement la vision des choses qu'il devait construire, mais également comment Dieu lui avait remis en mémoire ces choses qu'il avait vues. C'est là un élément tout particulièrement distinctif d'un vrai prophète. Et maintenant, donc, je ne sais plus exactement comment nous avions terminé la dernière fois, mais nous allons passer pour faire le pont à l'œuvre pratique du don. L'œuvre pratique du don. Donc tout ceci, c'était par rapport à la condition physique de la personne durant la vision, tous ces aspects qui avaient trait à la condition physique du prophète, du vrai prophète. Et maintenant, nous passons aux aspects moraux. Oui, aux aspects moraux, un peu aussi physiques, mais tout particulièrement moraux du prophète. Donc nous allons essayer d'aller en détail tout en survolant le plus que possible les aspects afin de pouvoir cette fois-ci conclure. Donc, l'œuvre pratique du don, je vous invite à vous tourner pour cela vers le passage de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 22. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Tout d'abord. Et ensuite verset 24 et 25. Ainsi donc, les langues sont un signe. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Au lieu que la prophétie est un signe, non pour les incrédules, mais pour les croyants, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Donc nous avons ici clairement dans le Nouveau Testament, hein, nous avions vu que le don prophétique a sa place dans la dispensation évangélique, dans l'Église chrétienne. Et ici, l'apôtre Paul, sous l'esprit d'inspiration, dit que ce qui va distinguer la manifestation véritable du don prophétique au sein de l'Église évangélique, ce sera que si quelqu'un prophétise et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et qu'est-ce qui est particulièrement distinctif ici, verset 25? Et ainsi, les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi, se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Et je vous invite à suivre avec moi ce récit qui montre une illustration dans la vie d'Ellen White, précisément de cette déclaration de la parole de Dieu vis-à-vis des manifestations qui accompagneraient un vrai prophète ou une véritable manifestation, on pourrait aussi dire, du don de prophétie. Hein? Je cite, la prophétie, tel que c'est marqué au verset 22. Je vous le lis ici, ça se trouve dans le livre de Loughborough, John N. Loughborough, dans son livre The Prophetic Gift in the Gospel Church, le don prophétique dans l'Église évangélique, à la page 51, paragraphe 2. Donc il donne le récit, il relate une expérience qu'il a eue, ou dont il a été témoin, et dans laquelle Sir White était directement impliqué. Je lis. Pour illustrer ce passage, celui du verset 24 et 25 que je viens de lire, pour illustrer ce passage, nous attirons l'attention sur une vision donnée à Madame White et dont l'auteur a été témoin. Le premier sabbat d'octobre 1852, à Rochester, New York, elle vit en vision un homme qui, nous dit-elle, était en voyage d'affaires. Il avait beaucoup à dire sur la loi de Dieu et le sabbat, mais il enfreignait en même temps l'un des 10 commandements. Elle ajouta qu'il s'agissait d'une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qu'elle pensait qu'elle le verrait un jour, étant donné que son cas lui avait été révélé. L'un des membres du groupe de Rochester que Madame White n'avait jamais vu se trouvait à cette époque dans le Michigan. Environ 6 semaines après cette vision, il revint à Rochester. Dès que Madame White aperçut son visage, elle dit à l'une des sœurs, de point, « C'est l'homme que j'ai vu en vision et dont je vous ai parlé. » La vision ayant été racontée à cet homme en présence de sa femme et d'autres personnes, Madame White lui dit, comme Nathan à David, tuez cet homme. Le frère se jeta aussitôt sur sa face devant sa femme et dit de poing, en vérité, Dieu est avec toi. Il dit ça à sa femme. Puis, toujours à genoux, il fit une confession complète de la façon dont il avait violé le septième commandement, c'est-à-dire sur l'adultère, dans le Michigan, comme cela avait été révélé à Madame White, qui se trouvait à plus de 500 kilomètres de là à ce moment-là. Il raconta franchement comment il avait été pris au piège du péché et déclara que c'était la première transgression de ce genre dans sa vie et que ce devait être la dernière. Donc, en d'autres termes, cette personne avait commis l'adultère, il avait été infidèle à sa femme et il s'est retrouvé à cette réunion à Rochester, dans le Michigan, et Sir White lui a révélé la chose qu'elle avait vue à son sujet, et ensuite elle a rajouté, lié à cela, elle a dit « Tuez cet homme sur lequel je viens de raconter toutes ces choses », et le frère, qu'est-ce que nous lisons? Le frère se jeta aussitôt devant sa femme et dit « En vérité, Dieu est avec toi ». Et qu'est-ce que c'était qui était marqué dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25? Si un incrédule ou un ignorant vient et que quelqu'un prophétise, vient dans l'assemblée et que quelqu'un prophétise, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, verset 25, et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés. Et ainsi, se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Donc dans cette instance, cet événement et cet exemple, nous voyons un accomplissement pratiquement à la lettre de ce que l'apôtre Paul avait dit sur ce qui se passerait lorsque quelqu'un, soit un incrédule, soit un ignorant, et là dans ce cas un croyant qui était tombé dans le péché, viendrait dans l'assemblée et entendrait et assisterait à la manifestation du don prophétique à travers un véritable prophète de Dieu. Vous voyez? C'est assez convaincant, n'est-ce pas? Et ça montre donc l'œuvre pratique du don, c'est ce que nous sommes ici en train de chercher à le voir. Et j'aimerais lier à cela quelque chose qui n'est pas moins important et pas moins significatif à travers dans le passage de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, car l'activité de l'esprit de prophétie en ces derniers jours est tout particulièrement illustré et exprimé ici dans ces paroles de 1 Corinthiens 14, versets 22 à 25, et également dans ce passage de Luc 2, verset 34. Je vous le lis tout de suite. Donc ici, il s'agissait de Joseph. Excusez-moi, dans le contexte, c'est que il y avait à Jérusalem, verset 25, un homme qui s'appelait Siméon, un homme juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, le Saint-Esprit était sur lui. Il vint au temple par l'Esprit, et comme le père et la mère apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui était en usage selon la loi, Siméon le prit entre ses bras et bénit Dieu en disant « Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui et Siméon, voilà, verset 34, « Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour être en but à la contradiction, en sorte que les pensées du cœur de plusieurs seront découvertes et pour toi une épée te transpercera l'âme. » Et donc vous voyez que ce qui était déclaré au sujet que nous venons de lire précédemment, au sujet du don prophétique dans l'Église et dans l'Assemblée des croyants et sur son effet est directement semblable, pareil, à ce qui était déclaré au sujet de Jésus et de l'influence qu'il aurait sur les hommes sur la terre pendant qu'il y serait incarné. Vous voyez? Pourquoi est-ce que ce lien peut être fait? Parce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 verset 10 que l'esprit de prophétie ou autrement dit, le don prophétique, le don prophétie, ou la prophétie, comme c'est marqué au verset 22 d'un Corinthiens chapitre 14, le don de prophétie, l'esprit de prophétie, c'est quoi? Le témoignage de Jésus. Et donc, le don prophétique, cette manifestation du don prophétique, de l'esprit de prophétie parmi le peuple de Dieu, aura précisément le même effet qu'avait Jésus à travers sa présence sur la terre. Qu'est-ce que c'était? Les pensées du cœur de plusieurs sont, à travers l'esprit de prophétie, découvertes, afin que nous puissions nous connaître nous-mêmes et faire des choix vis-à-vis de si nous voulons obéir à Dieu en lien avec les réprimandes qu'il nous adresse, ou si nous voulons lui tourner le dos. Beaucoup du temps de Jésus ont tourné le dos à Jésus parce qu'il leur révélait qui ils étaient vraiment. Et c'est précisément le même rôle que joue et la même influence qu'a l'esprit de prophétie dans les derniers jours. Maintenant, donc c'était ça qui était très important. Maintenant, nous allons pouvoir poursuivre sur le point numéro 3. Et je n'ai pas oublié ce que j'ai dit, je vais donner toutes ces notes, simplement je ne l'ai pas fait par la dernière fois, d'ailleurs je n'ai pas pu faire ce que je disais, c'est-à-dire présenter pendant la semaine, j'étais trop occupé, donc vous me pardonnerez. Mais là, donc nous continuons et je vais donner toutes ces notes-là dans la description sous peu. Dans le point numéro 3, nous voyons quelque chose aussi qui est distinctif de la manifestation du don prophétique. De la véritable manifestation, nous vous le trouvez dans Daniel chapitre 7, verset 10. Daniel chapitre 7, verset 10, nous lisons. Alors, excusez-moi que je dis des bêtises, je pense. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça va être Daniel chapitre 10, je pense. Daniel chapitre 10, verset 7. Alors, je rectifie maintenant. Daniel chapitre 10, verset 7, nous lisons: Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Donc nous voyons ici dans cet exemple de la vision de Daniel, à partir de laquelle nous avons déjà relever 5 points, hein, c'était dans le point numéro B, du point numéro 1, excusez-moi. Et non seulement nous avions ces 5 points sur la condition physique, mais nous avons aussi l'effet sur les autres, à savoir tout particulièrement les incroyants, de la manifestation du don prophétique. Et pour élargir cela, donc ici, dans la vision de Daniel, dans l'exemple de la vision de Daniel, nous voyons que lorsque Daniel eut sa vision, ceux qui étaient avec lui, non seulement ne la virent point, mais une grande frayeur tomba sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Et j'ai noté ce point numéro 3 ainsi, je l'ai intitulé ainsi, La vision fait fuir les méchants. Voilà, pour englober le grand principe. Et c'est précisément ce que nous voyons dans la vie d'Ellen White. Je vous le lis ici dans le livre de Loughborough à la page 52 et au paragraphe 2. Un fait similaire s'est produit à Parkville dans le Michigan le 12 janvier 1861. C'était le jour de la dédicace de la maison de réunion de Parkville et un large public s'était rassemblé. Le frère White et sa femme, le frère J.H. Wagener et l'auteur, c'est-à-dire Loughborough, étaient présents. À la fin du service, Madame White prononça une exhortation et la bénédiction de Dieu reposa sur elle dans une mesure remarquable. Après s'être assise, elle fut transportée en vision et resta assise. Il y avait là un certain docteur Brown, un homme robuste, physiquement fort, qui était un médium spirit. Parce qu'à peu près en 1848, c'est là qu'ont commencé ces fameux wrappings, aux États-Unis d'Amérique, et c'est là qu'a commencé le grand mouvement spirit ou spiritiste, qui a ensuite évolué dans le mouvement New Age que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça a commencé au tout départ à travers tout ce qui était un peu de l'occulte. Et donc, cet homme, ce docteur Brown était un homme robuste, physiquement fort, qui était un médium spirit. Comme on l'a appris par la suite, il avait dit dans les visions, il avait dit, pardon, que les visions de Madame White étaient identiques aux manifestations de médium spirituel. Et que si elle en avait une en sa présence, il pourrait l'en faire sortir en une minute. Frère White, c'est-à-dire l'époux de Madame White, James White, invita tous ceux qui le désiraient à s'avancer et à s'assurer par un examen de l'état de Madame White pendant ses visions. Quelqu'un lui dit: Docteur, allez-y et faites ce que vous avez dit. Frère White demanda alors: Y a-t-il un médecin dans la maison? Donc il y a quelqu'un qui est à côté, il y avait des gens qui étaient à côté de Dr. Brown, qui savaient qu'il avait dit cela au sujet du fait qu'il pourrait faire sortir Madame White de sa vision. Et ensuite, James White, lui qui était sur la plateforme, probablement, quelque part proche de sa femme, il s'adressa à l'audience et il dit: Y a-t-il un médecin dans la maison? Nous aimons toujours que des médecins examinent Madame White pendant ses visions. Le médecin se lança courageusement, mais avant d'avoir parcouru la moitié du chemin qui le séparait de Madame White, il devint d'une pâleur mortelle et se mit à trembler comme une feuille. On le pressa de continuer et de procéder à l'examen. Dès que ce fut fait, il se dirigea rapidement vers la porte et saisit la poignée pour sortir. Les personnes qui se trouvaient à proximité l'en empêchèrent en disant: Retournez-y et faites ce que vous avez dit que vous feriez. Faites sortir cette femme de sa vision. Voyant le médecin essayer de sortir, frère White lui dit: Deux points. Le médecin veut-il bien présenter son rapport à la salle? Hein? Frère White lui dit, il disait au docteur: Est-ce que le docteur Brown, il veut bien maintenant dire ce qu'il a vu à travers son examen? Le docteur, répondit: Son cœur et son pouls sont réguliers, mais il n'y a pas la moindre parcelle de souffle dans son corps. Puis, très agité, il saisit à nouveau la poignée de la porte. Les personnes qui se trouvaient près de lui dirent: Docteur, qu'y a-t-il? Il répondit: Dieu seul le sait. Laissez-moi sortir de cette maison. Et il sortit. Il était évident que l'esprit qui l'influençait en tant que médium n'était pas plus tranquille en présence de la puissance qui contrôlait Madame White en vision que ne l'étaient les démoniaques qui demandèrent au Sauveur, deux points, Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et comme les Chaldéens mentionnés plus haut, il, le docteur, s'enfuit pour se cacher. Il s'enfuit pour se cacher de cette manifestation du don prophétique. Donc nous sommes ici en train d'examiner les fruits. En lien avec notre lecture biblique, hein, j'élargis un peu le sens de ce passage de Matthieu chapitre 7, mais c'est vraiment important parce que nous avons besoin d'être confirmés dans le témoignage de Jésus afin que lorsque nous sommes dirigés par Dieu, nous ne tournions pas le regard, nous n'ignorions pas les exhortations et les avertissements et les réprimandes, mais que nous confessions à Dieu nos péchés, que nous nous repentions et que nous puissions poursuivre notre marche dans le chemin de la sanctification, au lieu de faire uniquement notre volonté, d'être animés par nos propres opinions et de nous fourvoyer dans ces épreuves et dans cette vie et cette expérience chrétienne. Pour qu'elle soit réellement chrétienne, il nous faut entendre Jésus nous parler. Et il désire le faire à travers le témoignage de Jésus, dont la manifestation faisait fuir les méchants. Donc, si nous voulons être comptés parmi les justes, il nous faut permettre à la partie en nous qui désire fuir l'esprit de prophétie d'être purifiée, d'être brûlée, afin qu'il puisse ne rester en nous que Christ. Hein? Comme l'apôtre Paul disait, Je vis, toutefois non plus moi, mais Christ vit en moi. Donc si Christ vit en nous, lorsque Christ s'adresse à nous, nous ne fuirons point, mais nous viendrons au pied du Sauveur. Nous chercherons à entendre ce qu'il dit, même si ce qu'il dit, à certains égards, va peut-être, probablement, très certainement, nous faire nous remettre en question et condamner des choses avec lesquelles nous étions à l'aise. C'est tout particulièrement le rôle de l'esprit de prophétie, c'est de nous faire nous sentir mal à l'aise par rapport aux choses qui déplaisent à Dieu. Maintenant, le point numéro 4, nous voulons, je l'ai intitulé « Description prophétique du caractère des personnes ». À savoir, je vais vous le montrer directement, nous le voyons, ce principe, dans 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. De Rois chapitre 8, versets 7 à 15. Je vous le lis et après je vais commenter. Or, Élisée, donc pour le contexte, c'était que je suive bien. Il s'agissait de la prédiction du prophète Élisée à Hazaël, qui plus tard tua le roi de Syrie, son maître, et qui lui succéda. Donc je vous ai fait le résumé, mais on va le lire. 2 Rois, chapitre 8, verset 16. Or, Élisée alla à Damas, et Ben-Hadad, donc c'était lui le roi de Syrie, était alors malade. Et on lui fit ce rapport, de point, l'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Et le roi dit à Hazaël, qui devait être un serviteur, prends en ta main un présent et va-t'en au devant de l'homme de Dieu, et par son moyen, consulte l'Éternel en disant, relèverai-je de cette maladie? Hazaël s'en alla donc au devant de lui, ayant pris avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de mieux à Damas, la charge de 40 chameaux. Il vint donc se présenter devant Élisée et lui dit, de point, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi pour te dire, relèverai-je de cette maladie? Verset 10. Élisée lui répondit, va, dis-lui, de point, certainement tu en relèveras, mais moi, dit Élisée, l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. Puis l'homme de Dieu, Élisée, arrêta sur lui, c'est-à-dire sur Hazaël, son regard très longtemps et pleura. Alors Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais combien tu feras de mal aux enfants d'Israël, tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, tu éventreras leurs femmes enceintes. Hazaël répliqua, mais qui est ton serviteur qui n'est qu'un chien pour faire de si grandes choses? Élisée répondit, l'Éternel m'a montré que tu seras roi de Syrie. Alors Hazaël quitta Élisée et vint vers son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Hazaël répondit, il m'a dit, certainement tu guériras. Verset 15, mais le lendemain, Hazaël prit une couverture et la plongeant dans l'eau, il l'étendit sur le visage de Ben-Hadad qui en mourut et Hazaël régna à sa place. Si vous regardez ici, hein, nous sommes ici en train de chercher dans la parole de Dieu les exemples des manifestations du vrai prophète. Nous savons que Élisée est un vrai prophète parce qu'il était serviteur de Élie. Et il reçut, lorsque Élie partit, une double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. Donc, véritablement, tout ce qui a trait à Élisée peut nous servir, comme pour Daniel, d'exemple de ce qui distingue un vrai prophète d'un faux. Et parmi tous ces éléments, nous vous en voyons ici, dans ce passage, un qui est particulier et sur lequel nous voulons nous attarder un instant, à savoir, Hazaël est venu vers Élisée pour demander au nom de son maître des informations sur ce qui lui arriverait par rapport à sa maladie. Donc, Élisée a répondu, il a dit, certainement tu en relèveras, mais ensuite il a dit, verset 10, mais moi, c'est-à-dire Élisée dit, mais moi, donc en dehors de la question de ton maître, Ben-Hadad, Élisée disait, mais moi l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. Donc c'est assez, c'est bizarre. Donc il a dit, oui, dis-lui qu'il va en relever, mais ensuite, moi, l'Éternel, il m'a montré que en fait, il va mourir. Et qu'est-ce qu'il dit de plus? Il dit, puis, je veux dire, c'est écrit, puis l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, arrêta sur lui, sur Hazaël, son regard très longtemps et pleura. Donc de toute évidence, vous voyez que Élisée n'avait pas reconnu quelque chose, mais qu'ensuite, en regardant attentivement Hazaël, il reconnut que Hazaël était l'homme que Dieu lui avait montré précédemment en vision, parce que il lui dit au verset 12, après que Hazaël lui dit pourquoi mon Seigneur pleure-t-il, et Élisée lui répondit parce que je sais combien tu feras de mal aux enfants d'Israël, tu mettras le feu à leur ville, etc. Tu feras toutes ces choses ignobles. Vous voyez? Mais au début, Élisée n'avait pas reconnu Hazaël, mais ensuite, Dieu lui fit le reconnaître. Et j'aimerais vous montrer ici à travers ce récit, encore une fois, du frère Loughborough, dans le même livre, à la page 61, paragraphes 1 et 2. À la fois cet élargissement du passage par le frère et l'exemple qu'il donne vis-à-vis de ce même principe manifesté dans la vie de Sir White. Je lis. Il semble, d'après ce récit de Rois chapitre 8, qu'Élisée avait déjà été informé en vision que Ben-Hadad serait tué par l'un de ses serviteurs, qui deviendrait alors roi de Syrie et ferait beaucoup de mal aux enfants d'Israël. Après avoir répondu à la question de Hazaël sur la maladie de son maître, le prophète examine attentivement le visage de ce messager et voici qu'il s'agit de celui-là même dont le Seigneur lui avait montré qu'il serait le futur roi de Syrie. Vous voyez? Donc, il avait déjà montré à Élisée qui serait le futur roi, mais il n'avait pas vraiment vu le visage, et Dieu lui a révélé en la présence même de Hazaël. Et je poursuis. Nombreux sont les cas dont l'auteur a été témoin au cours des 58 dernières années, au cours des 58 dernières années, où des personnes précédemment vues en vision se sont présentées devant Madame White, personne qu'elle n'avait jamais rencontrée face à face, jusqu'à ce qu'elle entre dans une assemblée publique où elle, ces personnes, se trouvaient. Elle les distinguait alors de la foule en décrivant leur personne ou leur tenue vestimentaire, puis elle décrivait leur caractère, leur mode de vie, etc., plus clairement que n'auraient pu le faire leurs amis et leurs connaissances proches. Cette description s'accompagnait de réprimandes bienveillantes pour les fautifs, de conseils pour ceux qui en avaient besoin ou de paroles d'encouragement pour ceux qui luttaient contre les épreuves ou les découragements de la vie. Après, bien entendu, le frère, il va donner des exemples. Je n'ai juste pas le temps d'aller dans les exemples. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez, je vous les fournirai. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune occultation des choses qui ont été rapportées par les frères qui étaient eux-mêmes témoins oculaires de ce qui s'est passé à chaque fois, ou du moins de manière générale dans les visions de Sir White. Je peux vous le partager avec plaisir, mais bon, là, par rapport à la contrainte du temps, je ne le fais pas. Et donc, ce principe, nous apprenons par le moyen de ce frère que il a été accompli à de très nombreuses reprises. À savoir qu'il arrivait souvent à Sir White de voir des personnes en vision et ensuite de les reconnaître quand elle les voyait. Vous voyez? Un peu comme avec Élisée et ce serviteur Hazaël. Maintenant, j'aimerais vous partager, à travers ce numéro 5, sept règles pour discerner les vrais prophètes. Sept règles, sept. La première, je l'ai intitulée 5A. Excusez-moi, vous allez vous perdre, mais ce n'est pas grave. Je vous le montrerai dans les notes quand je vous les donnerai et vous arriverez à comprendre. Donc, cette règle pour discerner les prophètes, la première, 5A, c'est celle-ci, à la loi et au témoignage. Ce fameux passage de Ésaïe, chapitre 8, verset 16. Venez-y avec moi, si vous voulez bien. Dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 16, nous voyons le suivant. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Je m'attendrai à l'Éternel qui cache sa face de la maison d'Israël, je m'attendrai à lui. Me voici, moi, les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Excusez-moi, oui, je peux poursuivre. Et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent dans la montagne de Sion. Et si l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants, s'adressera-t-il aux morts? Verset 20. À la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Vous vous rappellerez que dans l'une de nos dernières études au sujet du don prophétique, nous avions quelque peu élaboré sur ce point, mais nous voulons y revenir d'ailleurs à travers cette citation suivante du frère Loughborough, encore une fois, qui se trouve dans le même livre à la page 67, paragraphe 1, au sujet de, donc, l'application de ce principe au sujet duquel Dieu dit qu'il détermine s'il y aura pour le peuple la lumière ou pas, à savoir à la loi et au témoignage. Dieu dit que ce sont les personnes qui parlent selon sa loi, la loi de Dieu, et le témoignage des prophètes qui sont distingués comme dignes de foi ou comme donc des véritables prophètes, parce que nous avions lu que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire qu'un vrai prophète sera toujours en accord avec les principes qui ont toujours distingué les vrais prophètes. Vous voyez? Donc il n'y a pas de nouveaux standards, de nouveaux critères. Si un prophète se présente, pour qu'il soit reconnu comme un vrai prophète de Dieu, il faut qu'il soit en accord, que les manifestations du don en lui rejoignent celles du don dans les autres, les prophètes du passé, ceux qui ont été reconnus comme tels, tout particulièrement par la parole de Dieu elle-même. Et donc voilà, je vous lis cette citation pas de l'esprit de prophétie, mais du frère dans son livre, à la page 67, paragraphe 1. En appliquant cette règle de Ésaïe 8, verset 20, en appliquant cette règle aux écrits de Madame White, je dirais qu'au cours des 58 dernières années, j'ai lu attentivement ces témoignages, les comparant à la loi de Dieu et au témoignage de la Bible. Et j'ai trouvé une parfaite harmonie entre les deux. Ces instructions n'ont pas pour but de donner une nouvelle révélation qui se substituerait à l'écriture, mais plutôt de montrer où et comment, à notre époque, les gens sont susceptibles de s'égarer, de s'éloigner. Excusez-moi, de s'éloigner de la parole. La position qu'occupent les témoignages de Madame White peut être mieux expliquée par ce qu'elle a elle-même écrit à ce sujet. Et ici, donc, je vous cite les passages de l'esprit de prophétie, c'est-à-dire des écrits de Sir White, qu'il cite lui-même. Donc, c'est une citation dans la citation. Et la première citation dans la citation qu'il donne, ça vient de Testimonies for the Church, volume 5, page 663, paragraphe 2. Donc là, nous sommes aussi en train de faire le pont entre les choses que nous avons lues au sujet des témoignages, des témoins oculaires et de ce à quoi ressemblaient les visions de Sir White à la fois dans le physique et dans le moral. Et maintenant, nous allons voir l'application encore de ce principe d'Ésaïe chapitre 8, verset 20, à travers notre lecture de l'esprit de prophétie. Donc maintenant, nous faisons le pont. Voilà ce qu'il cite. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus obscur et elle peut être comprise par ceux qui ont le désir de la comprendre. Malgré tout cela, certains qui prétendent étudier la parole de Dieu vivent en désaccord complet avec ses enseignements les plus clairs. Alors, pour laisser les hommes et les femmes sans excuses, Dieu leur donne des témoignages clairs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Je poursuis. Le Seigneur a l'intention de vous avertir, de vous réprimer, de vous conseiller à travers les témoignages donnés et de marquer votre esprit de l'importance de la vérité de sa parole. Les témoignages écrits n'ont pas pour but de donner une nouvelle lumière, mais plutôt de graver dans le cœur les vérités déjà révélées par l'inspiration. Le devoir de l'homme envers Dieu et envers ses semblables a été clairement exprimé dans la parole de Dieu, mais peu d'entre vous obéissent à la lumière qui leur a été donnée. Aucune vérité supplémentaire n'est apportée, mais Dieu a simplifié par l'intermédiaire des témoignages les grandes vérités déjà données, et de la manière qu'il a choisie, il les a portées devant le peuple pour éveiller et imprégner l'esprit de ces vérités afin que tous soient laissés sans excuse. Vous voyez donc le lien et l'harmonie entre à la fois la loi de Dieu et le témoignage de la parole de Dieu avec les témoignages de l'esprit de prophétie dans les écrits de Sir White est profondément étroit, c'est-à-dire vous ne pouvez pratiquement, vous ne pouvez pas distinguer de différence, c'est juste une continuité du même esprit. Hein. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est-à-dire il y a aucune incohérence. Tout est c'est la suite logique de la cohérence du même esprit qui a inspiré les prophètes et qui maintenant est manifesté à travers le témoignage de Jésus. Vous voyez? Dieu a simplifié par l'intermédiaire des témoignages les grandes vérités déjà données. Donc elles sont compactées dans la parole de Dieu et à travers les témoignages, elles sont regardées par le microscope pour ainsi dire et elles sont présentées d'une manière que nous pouvons mieux saisir dans la pratique. Il les a simplifiées. Et il cite encore une fois citation, Testimonies for the Church, volume 5. L'orgueil, l'amour propre, l'égoïsme, la haine, l'envie et la jalousie ont obscurci les facultés de perception et la vérité qui vous rendrait sage à salut a perdu son pouvoir de séduction et de contrôle sur l'esprit. Excusez-moi. Les principes essentiels de la piété ne sont pas compris parce qu'il n'y a pas de faim et de soif de connaissance de la Bible, de pureté de cœur et de sainteté de vie. Les témoignages n'ont pas pour but de rabaisser la parole de Dieu, mais de l'exalter et d'attirer les esprits vers elle afin que la belle simplicité de la vérité puisse frapper tous les esprits. Donc je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter quoi que ce soit à ceci. J'aimerais, donc maintenant que nous avons établi cela, et bien entendu je vais vous fournir ceci et vous pouvez repasser, examiner ces déclarations de l'esprit de prophétie. Donc celle-ci, celle que nous venons de lire, elle montre le rôle de l'esprit de prophétie et combien l'esprit de prophétie, dans ce qu'il exprime ou dans les écrits de Sir White, je devrais dire, et combien il est en harmonie avec la loi et le témoignage. Je passe à la deuxième règle, c'est-à-dire 5b, à savoir Jésus-Christ venu en chair. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3, nous voyons quelque chose que la parole de Dieu nous présente comme un élément qui doit distinguer et nous permettre de reconnaître un vrai prophète. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceux-ci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Et donc ici c'est très intéressant parce que nous avons l'habitude de lire ce passage comme ayant trait au fait que Jésus soit né dans la chair de péché, ce qui est vrai et ce qui en est un des sens. Mais si vous regardez la manière dont le langage nous est présenté ici au verset 2 et au verset 3, j'aimerais attirer votre... Vous allez voir quelque chose de particulier vers quoi je vais attirer votre attention à travers les déclarations même du frère Loughborough, dans lequel il dit quelque chose de particulièrement significatif dans ce qui est sens... vis-à-vis de ce qui est censé distinguer un vrai prophète d'un faux. Parce que nous voyons que celui qui ne parle pas ainsi, c'est l'esprit de l'Antichrist au verset 3. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. J'attire votre attention vers le langage du frère. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Notez attentivement le passage précédent. C'est lui qui dit cela. Il ne dit pas, c'est-à-dire le passage ne dit pas que quiconque confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais, il cite, « venu en chair », c'est-à-dire qu'il vient par son esprit et qu'il habite en nous, en réponse à notre foi. C'est là, en effet, la vérité centrale de l'évangile, de point, entre, il cite, « Christ en vous », l'espérance de la gloire. Hein, c'est ce mystère dont l'apôtre Paul avait été rendu le serviteur et le messager, si vous regardez le passage de Colossiens, je crois que c'est Colossiens chapitre 1, verset 27, je n'ai pas le temps, je ne vais pas y aller. Mais il dit, et à juste titre, c'est là en effet la vérité centrale de l'évangile, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, un prophète qui ne parle pas selon ceci, il anéantit la vérité centrale de l'évangile, à savoir que Christ doit être non pas de notre croyance, mais doit être lui en nous. Comment? Par son esprit. Hein? Parce que c'est précisément par l'esprit que Jésus vient en nous. Parce que Jésus, il disait, d'ailleurs, nous avions vu ça dans l'école du sabbat, que c'est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en veux pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Et pourquoi est-ce que c'était avantageux pour eux d'avoir le Consolateur? Parce qu'il disait, c'était à travers le Consolateur que Jésus serait maintenant en eux. Il viendrait à eux. Non plus avec eux physiquement, mais en eux. Parce qu'il disait, dans Jean chapitre 14, qu'il leur disait aux disciples, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Et donc, à travers l'Esprit de Dieu en eux et en nous, c'est ainsi que Jésus viendrait à eux et à nous et ne nous laisserait point, je cite, orphelins. Ou, comme c'est marqué en anglais, sans consolation. Et le moyen par lequel nous avons la consolation, c'est parce que le Saint-Esprit vient à nous et nous amène en nous Jésus, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que nous n'avons pas d'espérance d'être transformés, si Christ n'est pas en nous, parce que le seul qui est juste, c'est Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1 qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Point de juste. Nous ne sommes pas justes. Et donc, si nous voulons avoir l'espérance d'être justifiés, transformés, nous avons besoin de Jésus en nous. Et nous lisons que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, qui confesse, pardon, Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est-à-dire, tout prophète qui met en avant le besoin du croyant d'avoir en son propre cœur et sa conscience la présence de Jésus, Dieu, dans sa parole, distingue cette personne comme étant un vrai prophète. Et distingue cet esprit comme étant en harmonie avec l'esprit des autres prophètes, de toute la parole de Dieu. Vous le voyez? Et il continue, ce n'est pas terminé. Le thème pratique que l'on retrouve dans les écrits de Madame White est la nécessité d'avoir un sauveur qui demeure en nous si nous voulons progresser dans la voie céleste. Le thème pratique que l'on retrouve dans les écrits de Madame White, c'est cette nécessité d'avoir le sauveur en nous. Ces écrits, c'est-à-dire les écrits de Sœur White, enseignent la nécessité de Christ en premier, en dernier et tout le temps. Pour illustrer ce fait, on peut citer son livre Steps to Christ, c'est-à-dire Vers Jésus, dont plus de 100 000 exemplaires ont été vendus en anglais, sans parler des milliers d'exemplaires dans plus de 20 langues étrangères dans lesquelles il est maintenant imprimé. Et juste pour confirmer cette affirmation qu'il a faite, et c'est ce que nous avons vu ici à travers le passage de 1 Jean chapitre 4, nous lisons cette citation suivante de Sir White, hein, j'allais dire l'esprit de prophétie, oui, mais je vous laisse le temps à travers cette étude de former une conviction. Ça se trouve dans la Review and Herald du 15 août 1907 au paragraphe 8. Je lis. Oh, nous sommes pour bon nombre d'entre nous tellement imbus de nous-mêmes, nous sommes si fermement attachés à nos tempéraments et à nos dispositions particulières. Allons-nous maintenant suivre la parole de près afin que ce grand moi meure et que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Hein? Vous voyez comment les écrits de Sir White, l'esprit de prophétie, nous met en avant le besoin que ce grand moi meure et que Jésus habite dans nos cœurs par la foi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez la concomitance ici, l'harmonie parfaite entre la parole de Dieu et les écrits de Sir White. Il n'y a pas d'incohérence, c'est parfaitement, c'est comme une même couleur. Je poursuis maintenant à travers cette troisième règle, à savoir 5C. Les faux, et je l'ai intitulé ainsi, les faux prophètes disent des choses douces, mais les vrais prophètes, les vrais prophètes c'est autre chose, je vais vous le montrer, je ne vais pas tout donner tout de suite. Vous le voyez dans 1 Jean chapitre 4 et verset 5. Et ensuite nous allons faire nous allons dresser le contraste avec le vrai prophète. Mais donc, pour discerner les vrais prophètes, il nous faut aussi pouvoir discerner les faux. Vous voyez, c'est très intéressant et important. C'est ce que nous avons fait, hein, en nous concentrant sur ce qui distingue un vrai prophète. Par définition, nous distinguons comment nous voyons comment distinguer un faux. Hein, ça va de soi. 1 Jean chapitre 4, verset 5, je lis. Verset 4 pour le contexte. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est intéressant, lui qui est en vous, hein? Jésus-Christ venu en chair. Verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde et le monde les écoute. Eux, c'est-à-dire les faux prophètes, Comme c'est marqué au verset 1, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ensuite, il continue au sujet 2, il dit, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Les faux prophètes qui n'ont pas, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, qui ne mettent pas ce besoin en avant, mais qui mettent en avant des choses douces pour chercher leur propre gloire, leurs propres intérêts, etc. Hein? Et au verset 5, il dit, eux, ils sont du monde, hein, les faux prophètes. C'est pourquoi ils parlent suivant le monde, c'est-à-dire conformément à l'esprit du monde. Et le monde les écoute. Donc vu qu'ils parlent en fonction de l'esprit du monde, de la chair, de ses convoitises, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, eh bien le monde les écoute parce qu'ils ne contredisent pas le monde. Donc ils se rendent eux-mêmes compatibles au monde et donc ils élargissent leur capacité à attirer des foules. Hein? C'est par définition ce qui caractérise un faux prophète. Et maintenant, vous vous tournez vers les paroles d'Ésaïe, chapitre 30. Et vous remarquez, frères et sœurs, que si vous avez été attentifs, nous sommes ici en train de faire une véritable et profonde étude biblique sur la vraie manifestation du don de prophétie. Donc, je n'ai pas fait quelque chose de complètement superficiel. Je vous ai partagé quelque chose qui soit digne de foi, vers quoi vous pouvez revenir à travers l'étude honnête et sincère de la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas ensuite venir au frère Victor et dire non, non, je ne crois pas à cela. Vous n'avez aucune excuse après ce message. Plus aucune. Je lis dans Ésaïe chapitre 30, versets 9 à 11. Ésaïe chapitre 30, verset 9. Car c'est ici un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Et ce peuple menteur qui ne veut pas écouter la loi de l'Éternel, comment parle-t-il? Que demande-t-il? Verset 10. Qui disent aux voyants, excusez-moi, qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions, sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Voyez? Donc, et le faux prophète va répondre à cette soif du peuple rebelle et va lui donner exactement ce qu'il demande, si ce n'est par des paroles explicites, au moins par son esprit. C'est l'esprit du monde qui est ici mis couché sur papier par la parole inspirée de Dieu. Mais rarement les gens vont dire de telles choses. Simplement l'esprit qu'il communique et qu'ils respirent par leur atmosphère impie et rebelle, est celui que nous venons de lire du verset 9, du verset 10 à 11. Sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Et donc, nous voyons que c'est ça qui caractérise un faux prophète, et donc par définition, le vrai prophète va être l'opposé de cela. Hein? C'est toujours le même principe que nous retrouvons, à savoir, les vrais prophètes n'ôteront pas de notre vue le Saint d'Israël, mais présenteront le chemin du renoncement et de la croix. Vous voyez? Quel est le chemin du renoncement et de la croix? C'est le chemin qu'a foulé Jésus. Et j'attire votre attention vers la citation suivante, qui vient cette fois-ci des écrits de Sir White. Ça se trouve dans Puissance de la grâce à la page 343 et au paragraphe 3. Voilà ce que nous lisons. Donc nous voulons voir, hein, nous voulons chercher si les écrits de Sir White sont un accomplissement de ces paroles du verset 10 au 11, ou s'ils sont l'inverse de cela. C'est ça que nous voulons chercher, c'est ça le but de l'étude. Je lis, les païens, sans être dirigés par une conscience éclairée et sans craindre Dieu, se privent et se soumettent à la discipline d'une formation, évitant toute influence dévalorisante pour obtenir une couronne périssable et les applaudissements de la foule. À combien plus forte raison les croyants qui participent à la course chrétienne en espérant l'immortalité et l'approbation des cieux devraient-ils s'interdire les stimulants et les satisfactions malsaines qui dégradent les mœurs, affaiblissent l'intelligence et assujettissent les plus nobles facultés à l'esclavage des appétits et des passions animales? Dieu et les anges célestes observent avec grand intérêt le renoncement, le sacrifice et les efforts désespérés de ceux qui participent à la course chrétienne. Donc voilà, c'était juste un exemple de cet appel, je cite, au renoncement, au sacrifice et aux efforts sérieux déployés par ceux qui participent à la course chrétienne. De la même manière que les païens, eux, participent à la course mondaine. Donc ils participent à la course pour les lauriers éphémères, hein, comme les Jeux Olympiques, vous les voyez aujourd'hui, là, ils déploient énormément d'énergie et d'argent pour obtenir juste cette petite médaille d'argent, bronze, or. Quoi la valeur de tout ça? Ça n'a aucune valeur. Et donc, à plus forte raison, les chrétiens, les croyants qui participent à la course chrétienne, c'est-à-dire qui espère l'immortalité, pas juste un laurier passager et éphémère, mais l'immortalité et l'approbation du ciel. Donc les hommes qui font ces courses mondaines, tous ces championnats, etc., ces compétitions, etc., hein, le cyclisme, la natation, la boxe, le judo, le tir à l'arc, le tir, etc., toutes ces choses-là, ils font ça pour avoir l'approbation des hommes, pour avoir un laurier périssable. Mais le chrétien dans la course chrétienne, qui participe à la course chrétienne, le croyant, et lui, il espère l'immortalité, l'approbation des cieux. Et donc, combien plus devrait-il renoncer à ses propres désirs? Les athlètes renoncent à des désirs, mais pour des lauriers éphémères, pour la gloire humaine, etc. Et le chrétien, proportionnellement à ce qu'il attend dans cette course, il devrait faire preuve d'un plus grand renoncement encore. C'est donc ce que nous présentent les écrits de Sir White. Et donc vous pouvez clairement voir que ces écrits ne sont pas du tout de nature à ôter de notre vue le Saint d'Israël, mais plutôt à constamment nous réveiller au sujet de notre besoin de marcher sur le sentier étroit qui mène à la vie. Hein? C'est ça dont Jésus y parlait. Hein? La porte est étroite, le sentier est resserré qui mène à la vie et peu sont ceux qui s'y engagent, n'est-ce pas? Eh bien, ce même esprit que nous retrouvons dans les paroles de Jésus est directement réitéré, élargi, répété dans les écrits de Sir White. Donc voilà, nous avons vu le point C. Maintenant, je vous attire votre attention vers le point D. Donc cette étude va légèrement être un peu plus longue que d'habitude, mais il faut quand même que je termine. Et je pense que c'est une ressource. Hein. Mon cœur, ça a toujours été de fournir des ressources aux frères et sœurs. Pas juste leur donner des excitations comme les prédications de ces jours, mais plutôt d'éduquer. Et à travers cette éducation, les frères peuvent eux-mêmes former des groupes, se former eux-mêmes, s'éduquer eux-mêmes, se rapprocher eux-mêmes du Seigneur. Donc ils sont peut-être pas excités, mais au moins ils sont sanctifiés à travers ces choses. C'est mon but. Donc le point D, c'est 5D. Je l'intitulais ainsi, les faux prophètes rendent vains, les vrais par contre servent de modèles de souffrance. Hein? Je vous attire votre attention vers les paroles de Jacques chapitre 5 et verset 10. Ce sont ici des éléments de langage que je tire directement de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie et qui nous permettent de distinguer un vrai prophète d'un faux. Jacques chapitre 5, verset 10. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Est-ce que vous arrivez à saisir quelque chose ici? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a un message qui est communiqué? Est-ce qu'il y a un principe que nous retrouvons dans ce passage? Eh bien, oui, si vous êtes attentif, regardez. Si vous liez l'un à l'autre, parce que la parole de Dieu nous sert de définition à de nombreux égards de choses, eh bien, vous voyez que ceux qui parlent au nom du Seigneur vont vivre de telle manière qu'ils serviront de modèle de souffrance et de patience. Hein, les prophètes qui parlent au nom du Seigneur serviront de modèle de souffrance et de patience par leur vie et leur consécration et leur esprit de renoncement et de sacrifice et les épreuves qu'ils traversent. Hein, parfois on dit oui, un prophète, oui, c'est juste pour sa gloire. Oui, les faux prophètes, oui. Mais les vrais prophètes traversent dans leur vie des épreuves innombrables qui leur permettent non pas d'être assis sur leur laurier et de compter leur trésor toute leur vie, mais qui leur permettent de servir de modèle et d'exemple de souffrance et de patience. Hein? Est-ce que nous voyons ceci? Ou plutôt, avant de répondre à cette question, j'attire votre attention vers les paroles de Jérémie chapitre 23, verset 16. Jérémie chapitre 23 et verset 16. Ouais, verset 16 et verset 17. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui procède de la bouche de l'Éternel, verset 17. Ils ne cessent de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit de point, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Donc, le verset 17 nous dit que ce qui di distingue, caractérise un faux prophète, hein, le genre de prophète que Dieu nous dit de ne pas écouter, c'est que il dit aux hommes, vous aurez la paix, quand bien même ils méprisent Dieu et ses injonctions. Et il dit aux endurcis de cœur il ne leur arrivera aucun mal. En d'autres termes, ils ne disent pas aux hommes ce que Dieu leur dit. C'est ça qui caractérise un faux prophète. C'est-à-dire qu'il dit aux hommes des choses autres que ce que Dieu dit aux hommes ou désire leur faire comprendre. Et le verset 16, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire que ce qui caractérise un faux prophète, c'est il rend les hommes vains. Pourquoi? Parce qu'il Ce n'est pas sa mission, il n'est pas en train de servir de représentant de Dieu, parce que c'est un faux prophète, et donc il n'est pas en train de représenter Dieu, mais il représente le monde. Nous avions lu dans 1 Jean chapitre 4, ils sont du monde, ils parlent selon le monde, suivant le monde. Et donc, un homme qui parle suivant le monde va parler comment? Il va parler selon les convoitises qui animent le monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et tout en parlant selon cet esprit, ils rendent les hommes vains. Vanité des vanités, tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. Eh bien, ainsi deviennent ceux qui se placent sous l'influence de tels présentateurs, de tels serviteurs, entre guillemets, de tels prophètes, de tels faux prophètes. Et nous le trouvons ici dans cette déclaration, encore une fois, du frère Loughborough dans son livre, ce même livre, à la page 70, paragraphe 1. Et je vous invite à être attentif à ce que le frère dit ici et affirme, et à réfléchir si c'est vrai. Réfléchir honnêtement si c'est vrai. Il dit, il n'y a rien dans les écrits de Madame White qui puisse rendre le lecteur vain. Mais, comme l'a exprimé un autre de point, il cite, j'ai reçu un grand profit spirituel à maintes reprises grâce au témoignage, avec un S. En fait, je ne les lis jamais sans ressentir des reproches pour mon manque de foi en Dieu, mon manque de dévotion, et mon manque d'ardeur pour le salut des âmes. Ensuite, il termine cette citation et le frère Loughborough continue, il parle, il dit: Il est donc certain que l'effet des témoignages de Madame White est très différent de celui des enseignements des faux prophètes tels que décrits par Jérémie, dans Jérémie 23. Il poursuit: En ce qui concerne la nature des enseignements de Madame White, dans ses témoignages, je citerai les mots suivants d'un lecteur attentif, deux points, entre guillemets. J'y trouve, c'est-à-dire dans les témoignages, j'y trouve les appels les plus sérieux à obéir à Dieu, à aimer Jésus, à croire les Écritures et à les sonder constamment. Une telle proximité de Dieu, une telle dévotion sincère, des appels aussi solennels à mener une vie sainte ne peuvent être suscités que par l'Esprit de Dieu. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Une telle proximité de Dieu, toutes les choses que les écrits de Sir White nous exhortent à avoir et à trouver, à chercher, cette proximité avec Dieu, cette telle dévotion sincère, ces appels solennels à mener une vie sainte, ce témoin ici dit, toutes ces choses ne peuvent être suscitées que par l'Esprit de Dieu. Et voilà de non, un parmi les nombreux témoignages qui attestent du caractère des écrits de Sir White qui est à des années-lumière de rendre son lecteur et ses lecteurs vains, mais plutôt a pour nature d'élever ses lecteurs et de les changer et de les exhorter à une vie plus sainte, à une dévotion plus sincère, à une plus grande proximité à Dieu. Vous voyez, toutes ces choses sont des caractéristiques, des effets et des impacts des écrits de Ellen G. White. Et maintenant, j'aimerais vous me concentrer sur ce point numéro 5, la cinquième règle qui permet de discerner des vrais prophètes, à savoir les prédictions s'accomplissent. J'attire votre attention, excusez-moi, vers les paroles de Deutéronome chapitre 18, versets 21 et 22. Deutéronome chapitre 18, verset 21. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Verset 22, il répond, Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite, le prophète l'a dite par orgueil, ne le crains point. Donc, le faux prophète est caractérisé par le fait que ce qu'il dit au nom de l'Éternel ne s'accomplit pas. Donc ça, c'est définitivement une prophétie d'un faux prophète ne s'accomplit pas. Et donc, par extension, nous voyons que le véritable prophète, ce qu'il dit, ce qu'il parle au nom de l'Éternel, sera et arrivera. Et c'est à cela qu'on reconnaît un faux prophète d'un vrai. Vous le voyez ici également dans Lamentations chapitre 3 verset 37. Lamentations chapitre 3 verset 37. Qui est-ce qui dit une chose, pardon, qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandée? C'est-à-dire, si quelqu'un annonce une chose et qu'elle arrive, la parole de Dieu attire notre attention vers le fait que cela est une chose que le Seigneur lui a commandé de dire. Donc, si une personne annonce quelque chose et que cela se produit, cela est un bon indicateur. Si cela se rejoint à toutes les autres choses que nous avons vues, hein, c'est toute une panoplie de distinctions et de caractéristiques, eh bien, cela annonce et confirme la présence d'un vrai prophète. Et là, je vais juste lire un résumé, parce que je ne vais pas traverser tous les exemples de prophéties qui se sont accomplies, qui avaient été données par Sir White. Je vais lui juste lire ce résumé qui se trouve dans la page 72 et paragraphe 2. Et ensuite, je vais juste vous mentionner des exemples de prédictions faites par Sir White qui se sont accomplies. Je lis ici. Il y a maintenant plus de 58 ans que l'auteur a vu pour la première fois Madame E. G. White dans une vision prophétique. Au cours de ces années, elle a fait de nombreuses déclarations prophétiques concernant des événements qui se produiraient. Certaines de ces prédictions se rapportent à des événements déjà accomplis. D'autres sont en cours d'accomplissement, il disait cela en son époque, hein, en 1911, tandis que d'autres sont encore à venir. En ce qui concerne celles qui se rapportent à des événements passés ou présents, je ne connais pas un seul cas d'échec. C'est-à-dire que de son temps, toutes les choses qui avaient été prophétisées comme devant s'accomplir de son vivant, il disait, je ne connais pas un seul cas d'échec. Devant s'accomplir ou s'étant accompli, il disait, je n'ai pas vu d'échec. Avant d'évoquer certaines des prédictions faites au cours de ces 58 années, il est bon de rappeler celles qui ont été faites antérieurement et qui ont été publiées en 1852. Et donc, à partir de la page 72 jusqu'à la page 87, il cite tous ces exemples. Je ne veux pas vous lire les exemples qu'il cite, je vais juste vous les mentionner brièvement et selon le temps que moi j'aurai ou selon vos requêtes, je peux tout à fait vous les fournir. L'une de ces prédictions qui ont été faites par Sir White, c'est la prédiction concernant les publications de la vérité présente. À savoir, Sir White avait vu que au début même de l'œuvre du mouvement adventiste, hein, lorsqu'ils étaient encore très peu nombreux, elle avait dit que il devait faire ceci et ceci, publier la vérité. Au début, ça c'était publié à travers un périodique qui s'appelait The Present Truth, si je me souviens bien. Et ça a continué comme ça. Après, ça s'est devenu un Review and Herald. Et donc, elle avait annoncé que ce message, cette revue aurait du succès et qu'elle deviendrait énormément populaire, et c'est précisément ce qui s'est passé. Deuxièmement, nous trouvons la prédiction sur l'évolution du mouvement spiritiste de 1850, à la page 76 et page 79. Le frère met en avant la prédiction de Sir White concernant la montée en puissance de l'évolution et de l'influence de ce mouvement spiritiste que je vous ai mentionné, hein, par rapport au ce fameux docteur Brown, qui était un docteur médium spirit. Et Sir White avait annoncé que ce mouvement prendrait de plus en plus d'ampleur, et c'est précisément ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand c'est né dans les années 1850, c'était inexistant, et ensuite ça a pris énormément d'ampleur et d'ampleur à travers les années, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous voyons que c'est devenu quelque chose d'absolument omniprésent dans la société, à savoir ce mouvement New Age et toutes ces conceptions de religion orientale qui se sont frayées un chemin dans la pensée générale des personnes jusqu'à ce que le yoga soit devenu une pratique si commune. Donc ça, c'est juste un exemple et tout cela a commencé dans les années 1850 et ça a grandi, grandi, grandi. Jusqu'à ce que nous pouvons voir son débouché dans les trois esprits impurs qui vont vers les rois de la terre pour les conduire à Armageddon. Tout cela est lié. Donc ça, c'était une de ses prédictions qui s'est totalement accomplie. Donc je ne peux pas aller dans les détails, je m'excuse pour cela. Une autre, c'était la prédiction, à savoir la vision sur la guerre civile de 1861 à 1865. Je crois qu'elle a eu cette vision le 12 janvier 1861, et ensuite la guerre a éclaté quelques mois après. Et lorsqu'elle avait fait cette prédiction, on le trouve dans la page 79 à la page 82 du livre du frère, lorsqu'elle avait dit que la confédération du Sud augmenterait, c'est-à-dire qu'il y aurait il y aurait davantage de signataires, les gens ne la croyaient pas. Toutefois, elle avait prédit qu'il y aurait énormément de personnes qui seraient impliquées dans cette guerre qui opposait les États du Sud aux États du Nord et à l'Union, c'est-à-dire on appelait ça l'Union du Nord, et les personnes n'y croyaient pas jusqu'à ce qu'ils se retrouvent plongés dans cette guerre civile des États-Unis d'Amérique, enfin de l'Amérique du Nord, qui fit énormément de morts. Elle disait dans une de ses visions où elle proclamait cela dans une assemblée, il y a certains hommes ici dont les fils mourront dans cette guerre. Et c'est précisément ce qui s'est passé. La guerre a éclaté en 1861 et c'est devenu un véritable cauchemar. Et elle avait annoncé que pendant, même après, elle a continué à parler au sujet de cette guerre et a annoncé des choses qui auraient lieu. Et elle a dit que, elle a montré, c'est fascinant si vous examinez ce qu'elle disait, c'est-à-dire qu'elle a dit que l'esclavage jouerait un rôle clé dans l'issue de ce conflit. C'est-à-dire que, et vous voyez que dès lors que Abraham Lincoln avait décidé d'annoncer que l'esclavage serait aboli en Amérique à l'issue de cette guerre, c'est là que les armées du Nord ont commencé à obtenir la victoire. Vous voyez, c'est des choses fascinantes sur les répercussions des choix moraux. Que d'ailleurs, Sir White avait prophétisé, avait annoncé que c'est ainsi que les choses évolueraient vis-à-vis de la guerre civile. Fascinant. Ensuite, vous avez bien entendu la vision d'Otsego sur la santé, ou comme on pourrait dire, sur la réforme sanitaire. On le trouve dans le livre à la page 86 et 88. Et elle parle donc de tous les effets qu'aurait. Elle a parlé ici de nombreux principes qui caractériseraient plus tard les réformes sanitaires, ensuite les réformes sanitaires et tous ces aspects de la réforme sur la santé qui aujourd'hui sont vus parmi les adventistes comme quelque chose, un dû, comme un acquis, mais qui n'était pas du tout acquise du temps de Sir White, qui était d'ailleurs très loin d'être même comprise ou à peine effleurée. J'aimerais juste lire la citation suivante du frère Loughborough à sa page 87, paragraphe 2, au sujet de cette fameuse vision d'Otsego et de ses enseignements en particulier sur la santé. Ici, c'est une citation qui vient d'une introduction par J.H. Kellogg, donc un docteur très, très connu parmi les adventistes, qui était d'ailleurs, je crois, directeur du sanatorium à Battle Creek. Et voilà ce qu'il disait au sujet du livre de Sir White sur la santé, d'un de ses livres, je ne sais plus lequel. Il disait ceci: Il faut certainement considérer comme une chose remarquable qui témoigne d'une preuve incontestable de la sagesse et de la direction divine, qu'au milieu d'enseignements confus et contradictoires se réclamant de l'autorité de la science, une personne ne prétendant à aucune connaissance ou érudition scientifique ait pu organiser un ensemble de principes hygiéniques si harmonieux, si cohérent et si authentique que toutes les discussions, les recherches, les découvertes et l'expérience d'un quart de siècle n'ont pas abouti au renversement d'un seul de ces principes, mais ont seulement servi à consolider les doctrines enseignées. En d'autres termes, il disait, c'est quand même, c'est Nous devrions regarder cela comme la preuve incontestable de la sagesse et de la direction divine dans les visions qui ont été données à Madame White au sujet de la santé, lorsque nous voyons que toutes les choses qu'elle a enseignées n'ont pas pu être améliorées après l'écoulement d'un quart de siècle et d'un quart de siècle d'avancées scientifiques en la matière qui, on aurait pu croire, auraient donné des meilleures illuminations, mais qui en réalité n'ont servi qu'à consolider les doctrines déjà enseignées par Sir White à travers ces visions que le Seigneur lui a données sur le sujet de la santé, elle-même qui ne prétendait à aucune et qui n'avait elle-même reçu aucune connaissance ou érudition scientifique, aucune éducation scientifique, et qui a pu malgré tout fournir des principes et des enseignements si élevés sur la question qu'on ne peut pas les améliorer jusqu'à ce jour, ce qui montre qui est une preuve incontestable de direction divine, d'inspiration divine. Il continue maintenant. Depuis 1863, date à laquelle la question du régime alimentaire et de la vie saine a été exposée à Madame White, le sujet de la réforme sanitaire a été associé au travail préparatoire visant à préparer un peuple à faire face aux événements qui nous attendent. Le Seigneur ramène son peuple pas à pas à son dessein originel, à savoir que l'homme subsiste grâce aux produits naturels de la terre. Voilà donc pour les prédictions qui s'accomplissent, à savoir les prédictions des vrais prophètes. J'attire maintenant votre attention, je vais conclure, hein, j'y suis, encore deux points. J'attire votre attention vers le point la sixième règle pour discerner les vrais prophètes, je l'ai intitulée la règle 5F. À savoir, les vrais prophètes ne font pas nécessairement des miracles. Alors tout cela, vous pouvez le voir dans, je vais abréger, hein. Tout cela, vous pouvez le voir dans Apocalypse chapitre 19, verset 20, Apocalypse chapitre 13, verset 14, 16, verset 14, à savoir que si nous prenons des miracles comme un test d'un vrai prophète, eh bien nous devrions reconnaître comme des vrais prophètes ceux qui nous sont présentés dans la parole de Dieu comme étant des faux. Hein? Et dans Luc chapitre 1, verset 76, Luc chapitre 7, verset 26 à 28, Jean chapitre 10, verset 41, nous présente ce même principe selon lequel les miracles ne distinguent pas nécessairement et ne nous permettent pas nécessairement de pouvoir reconnaître un vrai prophète. Voilà ce que le frère dit à ce sujet dans la page 95, verset 2. Cette sixième règle enseigne que si un miracle est accompli par un imposteur, il s'accompagnera, après examen attentif, d'une déviation par rapport aux vérités sacrées de la parole de Dieu et d'un rabaissement du niveau afin de satisfaire un cœur enclin à fuir le sentier de l'abnégation. Le Seigneur permet à de tels imposteurs de s'élever et leur conduite est une mise à l'épreuve pour le véritable enfant de Dieu, lui donnant l'occasion de considérer avec soin la tendance ou les mobiles de ces faiseurs de miracles. Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, au lieu de se laisser captiver par les faux faiseurs de miracles, ressortent forts en Dieu à l'issue d'une telle expérience, c'est-à-dire à l'issue de leur expérience d'avoir assister à des vrais miracles, mais malgré tout d'être resté sur le trône de leur raison, je devrais dire d'avoir préservé leur raison sur le trône de leur être et d'avoir pu continuer à examiner les fruits du prophète plutôt que simplement les manifestations de miracles. Donc, il disait, si un miracle est accompli par un imposteur, il s'accompagnera après examen attentif d'une déviation par rapport aux vérités sacrées de la parole de Dieu. Donc j'abrège ce point-là et cela nous mène vers la septième règle pour examiner un vrai prophète, à savoir celle de Matthieu chapitre 7 verset 15 que nous trouvions dans notre lecture biblique. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Et nous avons examiné à travers toutes ces choses, tous ces récits, ces témoignages, ce caractère de Sœur White, que précisément, elle nous a assuré que ses fruits sont bons. Tant les fruits de son ministère, à travers ses enseignements, que les fruits qui sont ressortis des manifestations de la présence du Seigneur dans les visions qu'elle a reçues. Toutes ces choses, frères et sœurs, certainement nous affirment dans l'assurance et la conviction que le don de prophétie, le don prophétique a véritablement été manifesté, s'est révélé dans une mesure inégalée jusqu'alors dans la vie et le ministère de Ellen G. White. C'est ma prière qu'à travers cette étude quelque peu longue, toutefois nous puissions tirer des convictions profondes qui nous aident à surmonter les passions de notre chair et à nous accrocher aux éclairages et aux corrections que le Seigneur Jésus cherche à nous donner par le moyen de ces témoignages, qui sont bel et bien le témoignage de Jésus adressé à nous en ces derniers jours pour nous préparer pour le retour imminent de Jésus, pour nous présenter irréprochable lors de son avènement. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, nous encourage, nous fortifie. Et n'hésitez pas à parcourir ces choses que je vous ai partagées. Je les mettrai à votre disposition. Je n'y manquerai pas cette fois-ci. Demain, je le ferai. Et à travers ces choses, puisse Dieu vraiment nous accompagner à toutes. Afin que la présence des témoignages dans notre vie puisse accomplir ce à quoi Dieu les a destinés pour nous. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse. Amen.